VOA Afrique.
Jacques Aristide dans la capitale américaine, grand plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Gros plan cette semaine sur le début des élections controversées au Burundi.
Un simulacre électoral crie les détracteurs du président Pierre Nkurunziza après les législatives et communales. Les États-Unis se disent déçus et craignent pour la présidentielle du 15 juillet au vu des violences qui continuent et qui font fuir davantage de Burundais. Quelle issue à la crise politique ? Décryptage.
Washington Forum.
Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum. En ce jeudi 2 juillet 2015, nos invités seront des nôtres dans quelques minutes pour nous livrer leur analyse sur le Burundi. Près de 10 000 Burundais ont fui le pays rien qu'en 2 jours, d'après l'ONU. C'était le week-end dernier, avant les élections de lundi. Pour l'heure, rien n'indique une amélioration de la situation. Des affrontements meurtriers entre manifestants Nkurunziza et forces de l'ordre se poursuivent cette semaine dans un pays déchiré sur la candidature du président à un troisième mandat. Les derniers développements avec Michel Joseph.
Malgré le climat délétère, certains Burundais ont tenu à se rendre aux urnes lundi pour prendre part aux élections législatives et communales.
Les élections sont importantes dans un pays qui se veut démocratique. Il est important que le pays se dote des institutions. Alors, en tant que citoyen, je suis venu voter ceux qui vont nous représenter dans les communes et ceux qui vont nous représenter dans l'élaboration et le vote des lois.
Mais pour l'opposition et la société civile, qui avait appelé au boycott, il s'agit d'élections fraudées dès le départ.
Ce sont des élections préparées par l'ancien parti au pouvoir, avec sa milice Imbonerakure, qui ne connaissent aucune observation, ni nationale ni internationale, qui ne connaissent aucune couverture médiatique, dans une insécurité totale généralisée. Donc vous comprenez que c'est une parodie d'élection. Donc on ne peut pas accompagner une telle mascarade.
Avis que ne partage pas le porte-parole du président burundais, Willy Nyamitwe.
Certains ont parlé d'insécurité. Ils pensaient que la situation au Burundi n'était pas propice à des élections libres et équitables. Mais finalement, nous leur avons prouvé que nous pouvons organiser des élections sûres.
Leur tenue, toutefois, a été qualifiée de fait grave par l'Union européenne, alors que les États-Unis se sont dit profondément déçus en raison, selon eux, des conditions terriblement inadéquates. La prochaine étape sera la présidentielle du 15 juillet, où Pierre Nkurunziza, déjà élu en 2005 et 2010, briguera un troisième mandat, contraire à la Constitution, selon ses adversaires.
Une fois les élections tenues au mépris total de l'Union africaine et de la communauté internationale, les organes de l'Union africaine ne resteront pas les bras croisés et feront ce qu'il est nécessaire le moment venu.
En attendant, la crise se poursuit après 2 mois de contestation émaillée de violences contre la candidature de Pierre Nkurunziza. Ces violences ont fait au moins plusieurs dizaines de morts depuis fin avril et poussé plus de 120 000 Burundais à fuir leur pays. Fin mai, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a lancé un plan d'intervention de 207 millions de dollars.
La situation au Burundi se détériore et le nombre de réfugiés continue d'augmenter. Mais le plan d'intervention est financé seulement à 13%.
Mais à Bujumbura, mercredi, c'était la fête. Fanfare, défilé militaire, défilé des policiers. Le Burundi célébrait le 1er juillet le 53e anniversaire de son indépendance de la Belgique.
Merci Michel. Accueillons maintenant nos invités. Pacifique Ninina Hazwe, l'un des leaders de la campagne anti-troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Il est également président du Forum pour la conscience et le développement, le FOCOD, qui est l'une des principales ONG burundaises de défense des droits humains. Il nous rejoint de Bujumbura. Et avec moi sur ce plateau, Frédéric Kundikije du service Kirundi de la Voix de l'Amérique. Pacifique Nina Hasway, d'abord, dites-nous, quelle est la situation ce jeudi sur le terrain? Nous savons qu'hier, dans le quartier de Chibitoke, il y a eu des combats meurtriers entre les forces de l'ordre et un groupe qui était armé, d'après la police. Le calme est-il revenu?
La population était pas libre. On a perdu le mouvement de police qui a attaqué le quartier. Et le soir, on a vu des cas de gens qui fouillaient ce quartier.
Pacifique, si vous m'entendez, ce sont les aléas du direct, comme on dit. La liaison téléphonique, apparemment, est très difficile. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être nous adresser directement dans votre téléphone. Je ne sais pas. Alors, on va essayer de régler tout ça. Évidemment, on est en direct. Alors, nous l'avons vu, des Burundais sont allés voter lundi et massivement, hein, si l'on en croit la commission électorale de votre pays. Vous, au sein de l'opposition et de la société civile, êtes-vous en train d'exagérer la situation politique et sécuritaire ? Manifestement, on a un petit problème. On va essayer évidemment de régler tout ça très rapidement. Alors, la question que je voulais poser à Pacifique, c'est qu'il y a des Burundais qui sont sortis pour aller voter lundi. Et alors, il y a des gens qui se demandent, est-ce que la situation est exagérée par l'opposition et par la société civile ?
Oui, comme vous le dites, des gens ont été votés, mais il faut aussi noter qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté. Tout d'abord, il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur du pays pour l'instant. Mais quand ils disent qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté, il paraît que c'est vrai parce que même des membres d'autres partis d'opposition ont été votés. Et alors là, il y a des gens qui disent qu'il se pourrait y avoir autour de 4 scénarios. Ouais. Donc, ou alors les gens qui ont été votés n'ont pas eu la communication de la part de leur chef politique, parce qu'il faut noter bien qu'au Burundi, tout le monde ne possède pas une radio. Alors, l'autre possibilité, c'est que donc les membres des différents partis politiques auraient eu le message, alors, et le désavouer. Ça, c'est une possibilité aussi.
Mm-hmm. Mais aujourd'hui, Frédéric, en fait, j'ai une dernière dépêche de l'ONU, hein, qui dit que c'est la mission d'observation de l'ONU qui juge les élections ni crédibles, mm-hmm. ni libres. Mm-hmm.
Justement, je crois qu'il y a des messages assez contradictoires. Hein. Tout à l'heure, j'ai vu un autre communiqué de la part des ambassadeurs qui représentent 4 pays, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Eux, ils disent que donc les élections se sont bien passées.
Ils avaient des observateurs sur le terrain.
Oui.
Ouais. Alors, sauf retournement dramatique, évidemment, c'est le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui doit remporter le double scrutin de lundi. Mais Frédéric, 3 jours après le vote, pourquoi les résultats se font toujours attendre ?
Ben, ça, je ne saurais pas dire, hein, mais une chose est sûre, hein, la CENI, qui est donc l'organe qui organise ces élections, il doit avoir des problèmes actuellement parce que, bon, il y a des fonds qui n'ont pas été donnés, des fonds promis qui n'ont jamais été là. Et alors, ça doit être un problème avec le comptage ou la compilation.
Oui. Alors, vous le disiez tout à l'heure, ce ne sont pas tous les partis d'opposition qui ont vraiment boycotté. Donc, c'est une situation complexe d'une certaine façon.
C'est assez complexe parce que, d'une part, on dirait que les intérêts des chefs des partis politiques d'opposition, disons locaux, divergent un peu avec ceux des chefs des partis politiques, parce que eux aussi, ils ont un intérêt. Quand ils sont élus, quand ils ont beaucoup de conseillers communaux, c'est là où ils peuvent aussi avoir des postes comme administrateurs. Alors, il y a des gens qui se disent attendre encore 5 ans pour avoir ces postes. Un poste d'administrateur, c'est assez important au Burundi.
Voilà, on me signale qu'on a pu rétablir le contact avec Pacifique. J'espère que vous m'entendez. Pacifique, alors, Mireille qui est avec nous. Mireille, elle nous rejoint via Skype. Mireille, c'est une Burundaise. Mireille Kayeye, bénéficiaire du programme YALI, Young African Leaders Initiative du président Barack Obama. Mireille, et en tant que jeune, quelle lecture faites-vous de la situation chez vous?
Allô?
Oui, Mireille, j'espère que vous m'entendez.
Oui, maintenant ça va, je vous entends, Jacques.
Voilà, très bien, merci de nous rejoindre. Quelle lecture faites-vous de la situation dans votre pays actuellement?
Je pense que la situation actuelle est un moment crucial pour la politique du Burundi. Après les élections et avec les événements qui se sont passés un peu avant, on retient que c'est important que des gens ont pu aller voter quand même. Parce que ici, ce qu'on prend à travers le YALI en tant que leadership, oui, c'est la façon dont les gouvernements puissent fonctionner de façon et de manière démocratique. Et l'une de ces façons, c'est le vote en fait, c'est de participer aux élections. Et voilà que les gens ont pu participer aux élections. Et la CENI et le travail de tout le monde, malgré la situation qui règne là-bas, j'ai confiance en fait que c'est une façon de pouvoir voir ce que le peuple veut vraiment.
Mais au vu de cette guerre du pouvoir, ce bras de fer continu entre gouvernement et opposition, craignez-vous une nouvelle guerre civile que personne ne souhaite évidemment, hein?
Oui, bien sûr. Je ne voudrais pas retourner dans ce qu'on a déjà vécu en 2013 avec la guerre civile. Disons que la situation du pays maintenant est un peu inquiétante. Mais je tiens à encourager le travail de chacun, en fait, de chaque personne qui se sent concernée. D'où même le fondement du leadership, que ce soit les jeunes, que ce soit les partis politiques, la société civile. Il faudrait absolument que tout le monde travaille ensemble, qu'ils évitent une division, ouais, et qu'ils essaient d'incarner une volonté de travailler ensemble pour implémenter une stratégie qui inspire à l'action, mais d'une façon non violente.
Non violente.
Alors, j'ai de l'espoir que tout se passera bien si on évite la violence.
Évidemment. Alors, vous restez avec nous, certainement. Je crois qu'on a pu rétablir le contact avec Pacifique. Pacifique, si vous m'entendez, alors, si de votre côté, du côté de la société civile, du côté de l'opposition, vous pensez que le régime de Pierre Nkurunziza cherche la légitimité par les urnes, était-il judicieux de boycotter le rendez-vous électoral de lundi?
Oui, d'abord je dois dire que dans l'intervention de mon ami Frédéric, j'ai trouvé qu'il y avait des contre-vérités. Quand il dit que tout le monde ne possède pas de radio, mais le problème n'est pas celui-là. Vous savez, nous sommes dans un pays où les radios privées, indépendantes, ont été détruites au cours du coup d'État de mai dernier. Des agents du pouvoir sont allés détruire les radios indépendantes. Cela fait que seul le pouvoir aujourd'hui a cette capacité de communiquer avec le reste de la population. Et quand on dit, quand les rapports du gouvernement disent que beaucoup de gens se sont mobilisés, ont été votés, mais ce sont des rapports du gouvernement. Il n'y avait pas d'observateurs indépendants, ni observateurs nationaux de la société civile, ni observateurs internationaux. Donc, à ce point de vue, je trouve qu'il y a des éléments qui ont été avancés par Frédéric, dont je ne suis pas d'accord. Je ne comprends même pas non plus pourquoi la CENI n'est pas à mesure aujourd'hui de donner les résultats rapidement de cette élection. Et quand on dit qu'il y aurait des partis de l'opposition qui auraient participé à cette élection, c'est aussi une contre-vérité. Le seul qui était dans cette course, c'était bel et bien le parti CNDD-FDD de Pierre Nkurunziza, mais aussi quelques autres partis qui sont des satellites du CNDD-FDD. Il n'y a aucun véritable parti de l'opposition qui a participé à cette mascarade électorale. Il faut se rendre à l'évidence,
C'était une élection qui n'avait aucun caractère pluraliste. C'était une élection d'une seule partie, d'un seul parti plutôt, une élection dont Nkurunziza lui-même. Alors, s'agissant de la décision de boycotter, pour nous, il n'y avait pas de raison de participer à cette mascarade qui était jouée d'avance. D'abord, une élection sans débat, sans médias libres, ce n'est pas une élection démocratique. Une élection où la milice Imbonerakure était en train de menacer tout le monde. Mais la principale raison qu'il faut toujours rappeler ici, c'est l'origine de notre crise, c'est le fait que Nkurunziza veut nous imposer un troisième mandat auquel il n'a pas droit, un mandat anticonstitutionnel et un mandat qui viole l'accord de paix et de réconciliation des Burundis, l'accord d'Arusha de 2000. C'est la principale question qui se pose aujourd'hui et on sera toujours contre toute solution qui pourrait nous ramener à un troisième mandat de Nkurunziza.
Alors, on n'est pas là évidemment pour engager un tir croisé entre Frédéric et vous-même, mais Frédéric, vous venez d'écouter Pacifique. Je ne sais pas s'il y a des points que vous voulez faire ressortir.
Monsieur Pacifique est sur le terrain, il a certainement vu ce qui se passe. Il a plus d'informations que moi, mais de toute façon, nous, les informations qu'on rapporte, c'est des choses qu'on a eues à travers les interviews qu'on a avec des leaders politiques et de l'opposition et ceux qui sont de la mouvance.
Oui, vous parlez aux différents protagonistes dans cette crise. Alors, le gouvernement a bien entendu sa propre interprétation des faits. Le ministre burundais des Affaires étrangères était récemment de passage à Washington. Alain Nyamitwe a répondu aux questions de Bagassi Koura.
Le Burundi est au bord de la guerre civile, le mot qu'on peut employer dans ce cas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'insister sur ce troisième mandat ?
D'abord, je dois vous dire que je respecte votre point de vue. D'abord, il s'agit d'un discours que nous ne partageons pas, un discours qui est entretenu par certains partenaires, qui est entretenu par certaines organisations, mais qui n'a aucune base réelle sur le terrain. Il y a une situation qui peut soulever peut-être des soucis dans un cercle ou dans l'autre, mais cela ne veut pas dire que le Burundi est au bord de la guerre civile. Je récuse cette expression de manière la plus formelle possible.
Le ministre Nyamitwe, que nous entendrons à nouveau tout à l'heure, ce sera sur la question des réfugiés. Un pays pas au bord de la guerre civile, votre réaction très rapidement, Pacifique Nina Hazwe.
Je suis surpris par cette déclaration du ministre Nyamitwe. Ça fait environ une semaine que nous entendons des armes qui crépitent dans la capitale Bujumbura. Mais en réalité, le Burundi n'est plus seulement au bord de la guerre, mais le Burundi est en train d'entrer de plein pied dans une guerre civile. Les armes crépitent chaque nuit à Bujumbura, mais qui est en train de tirer? Et qui tire, pourquoi il tire? Donc, rapidement, moi je trouve que petit à petit, on entre déjà dans une guerre civile. Ce n'est pas des choses à attendre, on est presque dedans maintenant, on est presque dedans. Deuxièmement, si nous avons la paix au Burundi, si nous avons pu avoir la paix, c'est grâce à l'accord de paix et de réconciliation, l'accord d'Arusha de 2000. Et lorsque le président est en train de piétiner, de fouler aux pieds cet accord, mais il est en train de mettre en danger cette paix relative qu'on avait acquise depuis 2000.
Donc, et le gouvernement vous dira le contraire.
Comment il peut filmer de telles choses alors que le pays entre petit à petit dans une guerre civile et qui est déjà visible sur le terrain.
Voilà, nous marquons une petite pause. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient dans 30 secondes. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne.
Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle.
Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes.
De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales.
Washington Forum.
Washington Forum.
Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum. Nous décortiquons la crise au Burundi, pays qui se prépare maintenant à la présidentielle après les législatives et communales lundi dernier. D'emblée, les commentaires Facebook, Trésor Kahungu de Bujumbura, le pays va-t-il s'enfoncer dans la crise? Oui, si Nkurunziza ne renonce pas à ses projets honteux, il doit quitter le pouvoir. Marc Bukuru, également de Bujumbura, Nkurunziza est réclamé par plus de 8 millions de Burundais sur 9. Vous autres occidentaux et quelques Africains europhiles avez de la manie à trafiquer l'information, quitte à faire croire le contraire au monde entier. Nous allons voter pour lui et personne ne peut nous empêcher de se choisir le président que nous voulons, que cela vous plaise ou non. Celui qui croit qu'il peut le battre aux urnes, qui se croit plus aimé que Nkurunziza, pourquoi ne vient-il pas se mesurer aux urnes au lieu de vendre son charabia aux occidentaux? Certainement, Pacifique va réagir tout à l'heure là-dessus. Héritier Tunza de Lubumbashi, les présidents africains doivent savoir partir. Et Shukuru Shumafis de Harare, Zimbabwe, si Nkurunziza lâche le pouvoir, qui alors dirigera le Burundi? Si l'Occident veut qu'il quitte le pouvoir, pourquoi ne pas encourager l'opposition à participer aux élections après Kadhafi? L'Union africaine n'a plus rien à dire. Débat très animé donc sur la page Facebook de VOA Afrique. L'heure de retrouver nos trois invités. Pacifique Ninina Hazwe, président de l'ONG FOCODE. Mireille Kayeye, bénéficiaire du programme américain pour les jeunes leaders africains YALI. Et Frédéric Koundoukidje de la VOA. Mais avant de continuer le débat avec eux, comme promis, plein feu sur le problème des réfugiés burundais. Pour nous en parler, je me tourne vers Bagasikoura. Bagassi, qui s'est rendu il y a quelques semaines dans un des camps qui les accueille. Merci d'être là avec nous, Bagassi.
Oui, bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Vous savez, quand la crise a commencé, fin avril, la plupart des Burundais qui fuyaient le pays se sont rendus dans les pays voisins, en RDC, en Tanzanie, en Ouganda et au Rwanda aussi. Et je me suis rendu donc dans le district de Kirehe, c'est dans l'extrême est du Rwanda, et c'est là que se trouve le camp des réfugiés de Mahama. Il abrite 30 000 Burundais. Le camp de réfugiés de Mahama, à la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie, 50 hectares au départ. Mais en quelques semaines, sa superficie a été doublée à cause des flux incessants de réfugiés. Depuis fin avril, ils arrivent ici par vagues, à pied, à vélo ou dans des bus de fortune. Ils fuient le Burundi, leur pays. D'abord accueillis à la frontière, ils sont ensuite conduits jusqu'ici. Voici le centre d'accueil du camp de Mahama. De nouveaux réfugiés, tous arrivés la veille. Ce matin, ils attendent de remplir les formalités. Un processus qu'a connu Rufu Niyongere, cette mère de 5 enfants, vit ici depuis plusieurs semaines.
C'est désormais ici que j'habite. Nous sommes 10 à vivre sous cette tente, y compris ces deux enfants qui sont venus d'eux-mêmes du Burundi. Cet enfant est venu tout seul de Muyinga, donc je l'ai pris chez moi.
L'espace ici est un trésor. Sous un même toit, son mari, ses enfants et d'autres compatriotes qu'elle a accueillis par solidarité. Les premiers réfugiés sont arrivés ici le 23 avril, à quelques jours de l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. Rufo, qui vivait tranquillement en zone rurale, explique avoir fui sous la menace des partisans du pouvoir à Bujumbura.
Nous avons fui à cause des Imbonerakure. Ils nous ont torturés, intimidés, et le gouvernement leur a fourni des armes et des grenades. Ils disaient dans les rues que celui qui n'est pas du CNDD va être nettoyé. Ils nous ont aussi accusés d'être des traîtres.
En deux mois, ce camp a accueilli près de 30 000 réfugiés.
Beaucoup d'adolescents, surtout les garçons, fuient le Burundi pour venir ici. Beaucoup d'entre eux viennent seuls ou en petits groupes, sans leur famille, sans leurs parents.
Ici, les nouvelles du Burundi sont suivies de très près et pour l'heure, personne ne parle de retourner au pays.
Bana Voilà, elle chante pour braver la douleur. Merci pour ce reportage, Bagassi. Oui. Sur cette question de réfugiés, là également, le ministre Niamitwe a un argument qui diverge.
Oui, vous savez, il y a quelques semaines, le HCR avait indiqué qu'il y a plus de 100 000 réfugiés hein, qui avaient, de Burundais qui avaient fui leur pays et qui sont donc réfugiés aujourd'hui. Eh bien, quand nous avons reçu le ministre Alain-Aimé Nyamitwe, qui est le ministre des Affaires étrangères ici à Washington, eh bien, il trouve que ces chiffres sont un peu exagérés de la part du HCR.
On l'écoute.
Il s'agit effectivement, encore une fois, d'un chiffre qui a été émis par le HCR sans qu'il puisse être...
Que vous contestez ?
Sans que le chiffre puisse être confirmé. Le HCR, dans un seul après-midi, avait d'abord donné le chiffre de 70 000 et deux heures après, le même HCR avait donné le chiffre de 100 000 pour se rétracter le lendemain et parler de 72 000. Où sont passés 30 000 ? Ils se sont évaporés dans la nature. Donc vous comprenez qu'il y a un problème de sérieux. Il n'y a pas de sérieux dans cette histoire de chiffres. Ce qui est certain et que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a des flux de retour continu.
Retour dans quel sens ?
De retour au Burundi, forcément. De retour au Burundi. Et quand j'ai quitté le Burundi, on avait estimé à environ, si même pas plus, de 40 000 réfugiés.
Voilà, le ministre Niamitwe, manifestement pas d'accord avec les chiffres.
Il n'est pas d'accord, il avance qu'il y a un mouvement retour, hein, que des Burundais sont en train de revenir dans leur pays. Ce que je n'ai pas constaté sur le terrain à Bujumbura, le service d'immigration avait été pris d'assaut quand j'étais là-bas. Le gouvernement était obligé de le fermer parce que la plupart des habitants cherchaient leurs documents, soit pour partir immédiatement ou pour être prêts au cas où la situation s'envenimait.
Frédéric, il y a également une hémorragie de cadres dans le camp présidentiel. On a vu le deuxième vice-président il y a à peine une semaine, n'est-ce pas ? Est-ce que cela aura un impact sur le pouvoir de Nkurunziza,
justement,
sur sa candidature ?
J'ai eu l'occasion de poser cette question à un leader du parti au pouvoir. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est que le vice-président et le président de l'Assemblée nationale donc étaient des gens qui avaient déjà annoncé leur position sur la troisième candidature. Mm-hmm. Et par ailleurs, ils ont dit que donc c'est des gens qui n'avaient pas eu de proposition de poste pour l'avenir. Donc pour eux, c'était normal.
Mm-hmm. Pacifique Nina Hasway, concernant la présidentielle, qu'allez-vous faire ? Est-ce que vous allez boycotter encore une fois ?
Notre appel restera le même, parce que les raisons qui nous ont poussés à faire le premier appel au boycott n'ont pas changé. Plutôt, nous considérons le 15 juillet, si Nkurunziza ose se porter candidat à cette élection, il aura parachevé le processus de trahison du peuple burundais. Il restera seulement à engager tous les moyens libres.
Pacifique, très rapidement, comme le temps passe très vite. Alors, si vous voulez ramener la paix dans votre pays, y a-t-il des concessions que vous pourrez faire éventuellement ? Très rapidement, en deux mots.
Une chose est sûre, nous n'accepterons pas un troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Quoi qu'il puisse faire, qu'il envisage de terroriser, d'intimider, de nous tuer, de nous assassiner, on n'acceptera pas un autre mandat par le seul fait qu'il est capable de terroriser.
On l'entend, vous êtes très catégorique là-dessus. On va donner la parole très rapidement également à Mimi Kayeye. Mimi, en deux mots, quel est l'appel que vous auriez aimé lancer aux différentes parties engagé dans ce conflit chez vous ?
En fait, j'insiste surtout sur cette citation de Nelson Mandela et même la chanson à travers les différentes interviews des réfugiés. C'est très important parce que l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde, mais aussi changer le pays. J'insiste sur le fait que pour que ce soit pour un changement de régime, que ce soit pour un changement de situation dans un pays, il faut éduquer les gens et leur montrer les meilleures stratégies possibles pour qu'ils arrivent à ce qu'ils veulent. Et nous, on recherche la paix.
Alors, il faut
trouver absolument
ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités. Pacifique Nina Hasway, l'un des leaders de la campagne anti-troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Mireille Kayeye, jeune leader du programme Yali. Frédéric Kundikidje, Bagassi Koura, tous deux de la Voix de l'Amérique. Un petit clin d'œil à nos amis et confrères de B1, notre télépartenaire à Kinshasa. Voilà, mes chers amis de la VOA, partout où vous êtes, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous. À bientôt.